Bonjour, que le Seigneur vous bénisse richement à l'écoute de cette étude d'aujourd'hui. On va prendre Ésaïe chapitre 40, verset 3. Ésaïe 40, verset 3, je lis. Une voix crie, « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Amen. Mes frères et sœurs, la véritable connaissance qu'on trouve dans la Bible, elle est venue par inspiration. Il nous faut donc de l'inspiration pour la comprendre. Bien sûr, il nous faut être intelligent, il faut être... Mais c'est surtout de l'inspiration, de l'intelligence spirituelle. Alors, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et aujourd'hui, je voudrais vous apprendre, peut-être, je ne sais pas, peut-être vous savez déjà, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, il faut que je partage avec vous cela. Il y a des difficultés dans les Écritures. Je vous donne un exemple dans le domaine profane, et après, on va voir dans le domaine des Saintes Écritures. Dans le domaine profane, par exemple, si j'écris, on mange les enfants. C'est-à-dire, oh là là, il y a des cannibales dans le coin, hein. C'est pas la même chose que si j'écris, on mange. Les enfants. Vous voyez, dans la première phrase, je dis, on mange les enfants, il n'y a pas de ponctuation, ça voudrait dire qu'on mange les gamins, quoi. Hein? Et puis dans la deuxième, c'est on mange, virgule, les enfants, ça veut dire les enfants à table, on va se mettre à table, il faut manger. Ce qu'il vous faut savoir absolument, c'est que ni l'Ancien Testament, ni le Nouveau Testament ne connaissaient ce qu'on appelle aujourd'hui la ponctuation, les ponctuations. Tout ça date du Moyen Âge. Le texte d'Ésaïe que nous avons lu dans notre version seconde a été arrangé par les théologiens avec deux points, par exemple, et puis ensuite une virgule, et ça donne un sens à cette phrase. La phrase, donc dans les anciens écrits, sans ponctuation, dit: Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit à ses sentiers. Bon. Est-ce que c'est une voix qui crie dans le désert? Ça peut être très différent, écoutez bien. Ou est-ce que c'est le désert, ce désert-là dont il est question? Est-ce que c'est le désert où est la voix qui crie? Ou est-ce que c'est au désert qu'on doit préparer le chemin? Sans ponctuation, c'est un peu difficile à savoir. Dans le contexte de la prophétie d'Ésaïe, c'est clair, parce que la voix qui crie qu'il faut préparer un chemin dans le désert, c'est clair, c'est à cette époque-là, le peuple juif est en déportation et il est clair qu'il faut bâtir un chemin dans le désert pour qu'il puisse rejoindre Jérusalem. Donc il y a une voix qui crie qu'il faut préparer dans le désert un chemin. Maintenant, on va voir dans Marc chapitre 1, verset 3. Voilà ce qu'il dit, Marc. Au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon qui est écrit dans les prophètes, voici, j'envoie devant toi mon messager qui prépare ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean apparut baptisant dans le désert, etc., etc., etc. Marc, il se saisit de cette écriture de l'Ancien Testament qui n'a aucune ponctuation, et il le cite avec un sens très différent de l'inspiration qu'il y avait au départ pour Ésaïe, pour le temps d'Ésaïe. Là, Marc, il ne dit pas qu'une voix crie de préparer un chemin dans le désert. Non, il dit que il y a une voix qui crie, c'est Jean-Baptiste qui est cette voix qui crie dans le désert, qu'il faut préparer le chemin du Seigneur. Pas de ponctuation, deux compréhensions différentes. Et voilà les intellectuels qui commencent à se chipoter et à se battre pour dire oui, bah alors Marc, il n'est pas très honnête, ou alors ceci, ou à cela, ou alors maintenant, finalement, il n'y avait pas de ponctuation, il avait le droit d'interpréter ça comme il voulait, ceci, cela, lequel dit vrai? Lequel dit vrai? Honnêteté? Malhonnêteté, non, on ne va pas parler de ça. Inspiration, mes frères et sœurs, inspiration. L'esprit prophétique parlait par Ésaïe et ce qu'il a dit a été écrit pour que on se souvienne de ce qu'il avait dit. Mais à cette époque, comme il n'existait pas de point, de virgule, de point virgule, de tiret, de entre parenthèses et de toutes ces choses-là, ben voilà. Mais n'empêche que ce que l'Esprit disait par Esaïe, c'était bel et bien que c'était sa voix qui s'élevait pour dire « Préparez un chemin dans le désert pour que Dieu et son peuple retournent donc en Israël. » Ça, c'était l'inspiration juste pour le temps d'Esaïe. Et puis, l'inspiration juste au temps de Marc, c'était de reprendre honnêtement cette prophétie écrite sans aucune ponctuation pour l'adapter à Jean-Baptiste qui était la voix qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur !» Est-ce que vous voyez ? L'inspiration, elle est divine. C'est un vent subtil, doux, et donné à ceux qui doivent comprendre ce qui est à comprendre. Les autres peuvent y voir ce qu'ils veulent. C'est pourquoi l'Écriture sainte est donnée à tout le monde, mais Dieu n'a pas peur. Ceux qui doivent comprendre, comprendront. Ceux qui ne doivent pas comprendre, ne comprendront pas. Même le diable, quand il lit, il ne comprend pas. C'est écrit, il peut le lire, que sa fin est proche, qu'il va être jeté dans les temps de feu, toutes les prophéties sont là. Mais il le voit autrement, lui. Il le voit autrement. L'inspiration est divine, elle est subtile, elle est donnée à ceux qui doivent comprendre ce qui est à comprendre. Les autres, ils y voient ce qu'ils veulent. Je vais vous donner un exemple qui nous concerne, nous, qui croyons que Jésus-Christ est Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu et qu'il n'y a pas trois dieux, et voilà, voilà, toutes ces choses. Vous savez, vous connaissez ma pensée à ce sujet-là. Lisons Romains chapitre 9, versets 3 à 5. Alors, Romains chapitre 9, versets 3 à 5. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Écrit comme ça, ça cache un peu la vérité. C'est une phrase un peu tordue. Elle laisse un goût de confusion. Rappelez-vous qu'il n'y avait pas toute la ponctuation dont j'ai fait preuve tout à l'heure en vous lisant le texte. Hein, je vous ai pas lu « Qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de tout, à qui appartient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte. » J'ai mis les virgules et les points, tout ça bien comme il faut. Si on prenait les textes littéralement et avec une autre ponctuation, ça donnerait ça. Eux, donc les Juifs, dont est issu le Christ selon la chair, celui qui est Dieu, au-dessus de tout et béni éternellement. Celui qui est Dieu, au-dessus de tout et béni éternellement. Pas de virgule. Ça veut dire que là, c'est Jésus qui est Dieu. Et il est béni éternellement. Il est Dieu béni éternellement. Ça, c'est dans une version qui date de 1911 de Staffer. Elle montre que Jésus est Dieu. Là, les témoins de Jéhovah détestent, n'est-ce pas, cette version-là. Ils ne veulent pas ça, parce qu'ils ne croient pas que Jésus est divin. Et puis, il y a Alfred Kuhn, mon cher ami suisse, théologien remarquable, qui a réellement été bien inspiré. Alors voilà comment il a transcrit le texte. Rappelez-vous, quand on prend les textes anciens, il n'y a pas de virgule, il n'y a rien du tout. Lui, il a transcrit comme ça. Le Christ est issu de leur race, tiret. Lui qui règne en tant que Dieu sur toute chose, deux points. Qu'il soit loué et béni à jamais. Amen. Ah ! Là, c'est clair. Là, il n'y a plus l'ambiguïté qu'on trouve dans ce second qui était un peu timoré, qui n'osait pas, qui ne voulait pas prendre vraiment position. Les mots sont tous justes, seules les ponctuations font la différence. Alors, les trinitaires et les témoins de Jéhovah, qui ne croient pas que Jésus est divin, les trinitaires y croient que Jésus est divin, enfin pas tous, tous, les trinitaires croient que Jésus est divin, mais qu'il y a trois dieux en fait, hein. Mais les témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus est divin. Alors, ils aiment placer les points, les virgules et les tirets à leur manière. Ils aiment bien, par exemple, Louis II. Bien Louis II. Mais nous qui croyons, comme les Juifs, qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Jésus-Christ est Dieu venu en chair, qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous, nous croyons dans la ponctuation d'Alfred Kuhn et de Staffer. Parce qu'ils ont été inspirés. Nous lisons que Jésus est Dieu venu en chair. Voilà. Et ça, c'est une inspiration venue de Dieu, que Jésus-Christ est venu en chair. C'est une inspiration venue de Dieu au temps du rétablissement de toute chose. Qui dit rétablissement de toute chose veut dire que toute chose avait été mise sans dessus dessous dans le chaos. Ça, c'est à cause des âges ténébreux de l'Église catholique, et ensuite l'Église protestante a commencé à remettre les choses en place, et petit à petit, maintenant le rétablissement de toute chose, on arrive au bout. Au temps du rétablissement de toute chose, Jésus dit qu'il ne viendra pas avant la venue, avant le rétablissement de toute chose. Ça doit être rétabli. Les théologiens trinitaires disent « Oui, mais Paul, il ne dit jamais que Jésus est Dieu. » Paul, il dit toujours que Jésus est le Fils de Dieu. Hein, lisez Romains 1, 2, 3, Romains 1, 19, où une fois, il dit dans Philippiens 2, 6, et puis même on n'est même pas sûr que c'est Paul qui a écrit la lettre aux Philippiens, qu'il est venu en forme de Dieu. Mais vous voyez, c'est une forme de Dieu, c'est pas vraiment Dieu, c'est une forme de Dieu. Vous voyez. Donc Paul ne croyait pas vraiment que Jésus-Christ était divin. Donc il n'y aurait que là, dans Romains 9, 5, que Paul dirait que Jésus est Dieu, et tout ça à cause de quelques virgules qu'on a placées à partir du Moyen-Âge, comme ci ou comme ça. Mes frères et sœurs, comme je vous disais il y a quelque temps, il y a des choses qui sont cachées par Dieu. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de découvrir les mystères cachés de Dieu. Les rois, c'est ceux qui règnent sur leur propre vie. Cela, à cela, Dieu révèle les choses. Il ne révèle pas à ceux qui sont des régnants par la religion, à ceux qui cherchent à dominer le peuple. Là, ils restent dans leur intellectualisme et ils trouvent de temps en temps des lumières et des belles choses d'ailleurs. Ils ne sont quand même pas tous une bande de trolls, hein, mais quand même, c'est Dieu qui révèle. L'inspiration, c'est indispensable. Est-ce que vous voyez ce que je cherche à vous dire ce soir? Les scribes, les théologiens, anciens et nouveaux, ils se bornent à transcrire ce qu'on dit des maîtres inspirés, comme Ésaïe, Paul, Moïse, etc., Marc, les autres, tous ceux qu'on voit dans la vie. Et n'étant pas forcément eux-mêmes nés de l'Esprit, eh bien, ils placent la ponctuation pour que leurs idées passent. Leurs idées religieuses, à eux. Mais sont-ils nés de l'Esprit? C'est pour ça qu'il est nécessaire que vous ayez plusieurs versions de la Bible. Achetez-vous ce DVD qu'ils appellent l'Online Bible. Vous mettez ça dans votre ordinateur, ça va vous aider. C'est magnifique tout ça. Et vous devez être inspiré pour lire la Bible. Sinon, vous serez comme des aveugles qui marchent à tâtons. Cherchez et vous trouverez. Il y a une science divine qui ne se comprend que par l'inspiration divine et non par le raisonnement intellectuel seul. Bon, les théologiens ne sont pas tous malhonnêtes, je ne dis pas ça. Ils ne sont pas tous non plus une bande de trolls malfaisants, comme on a connu là, il n'y a pas longtemps. Mais ils ne sont pas forcément humbles et inspirés, cherchant la face de Dieu pour trouver ce que Dieu a à dire, ce que l'Esprit a à dire à l'Église aujourd'hui. Les théologiens cherchent à transmettre des textes sacrés en se reposant sur l'interprétation morale et littérale, et ça c'est déjà très bien. Merci Seigneur pour leur travail, et merci à eux pour leur immense recherche, pour les trouvailles qu'ils ont faites, merveilleuses. Sans eux, on n'aurait pas la Bible, mais ça ne suffit pas. Il faut l'inspiration de Dieu. Je vous donne un exemple. Dans Genèse 6:3, Dieu dit « Mon esprit ne sera pas toujours en lutte avec l'homme, car l'homme n'est que chair. » La pensée de l'esprit n'est pas transcrite correctement. En réalité, Dieu disait « Mon esprit ne régnera pas ou ne sera pas abaissé à toujours dans les hommes, car ils ne sont, ou si vous voulez, car leurs erreurs, car dans leur erreur, dans leur péché, ils ne sont que chair. » C'est ça que le Seigneur voulait dire. Cela signifie que l'Esprit de Dieu demeure, vit, règne, s'exprime dans l'homme qui ne se plaît pas dans l'erreur, qui ne se plaît pas dans la confusion, qui ne se plaît pas dans le péché, qui ne se plaît pas dans l'ignorance, qui ne se plaît pas dans la tradition, qui ne se plaît pas dans une volontaire limitation. Est-ce que vous pouvez croire ça? L'Esprit de Dieu cherche à demeurer, à vivre, à régner, à s'exprimer dans un homme, une femme inspirée, qui se laisse inspirer, qui laisse volontiers tomber la tradition, quitte à perdre des amis. Jésus aujourd'hui, il vit en nous autant qu'il vivait dans l'apôtre Paul, si du moins nous conformons nos vies à sa vie. Et il s'exprime, il révèle les choses, il remet les choses en ordre dans l'Église, il restaure toutes choses, selon qu'il est écrit dans Actes 3:21, qu'il ne reviendra au temps du rétablissement de toutes choses. C'est maintenant le temps du rétablissement de toutes choses. Il faut que vous cherchiez la pensée de l'Esprit pour savoir comment vivre, pas seulement comment, ce que vous devez croire, mais surtout ce que vous devez vivre. Parce que croire une chose, c'est bien. Mais si ce que vous croyez, ça ne vous mène pas à une vie, à un vécu, Jésus est la vie. Il n'est pas simplement un faiseur de doctrine. Alors cherchez la face de l'Éternel et trouvez la pensée de l'Esprit pour aujourd'hui, pour votre vie. Que Dieu vous dirige. Soyez inspirés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.